Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive et par le mont Sinin et par cette cité sûre très certainement nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de la radio francophone iranienne en ce vendredi 15 décembre 2023, 24 Azar 1402 du calendrier persan. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Restez à l'écoute. En Iran, 11 policiers ont été tués dans une attaque revendiquée par des terroristes. L'Iran met en garde le chef des réfugiés de l'ONU contre une situation dangereuse dans la bande de Gaza. Et à Gaza, mort en martyr de plus de 3700 écoliers a été signalé. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici maintenant les détails. En Iran, une attaque terroriste contre un poste de police dans la province du Sistan et Baloutchestan, dans le sud-est du pays, a coûté la vie à 11 membres des forces de l'ordre et fait 7 blessés. L'attaque s'est produite tôt ce vendredi 15 décembre dans la région d'Orask, dans la province du Sistan et Baloutchestan, selon les responsables provinciaux cités par les médias iraniens. Le porte-parole de la police iranienne, le général de brigade Saïd Montazer al-Mahdi, a condamné cette attaque terroriste lâche et aveugle dans une brève déclaration vendredi matin. Il a indiqué que les forces de police avaient neutralisé plusieurs terroristes au cours de la fusillade, précisant que la situation était entièrement sous contrôle. Le gouverneur adjoint de la province chargé de la sécurité et des affaires politiques, Alireza Marhamati, a déclaré, lui, que les terroristes avaient organisé l'attaque vers 2h du matin contre le quartier général de la police d'Orask. Il a confirmé que 11 membres des forces de police, dont des officiers et des soldats, ont été tués dans l'attaque. Certains des blessés sont dans un état critique, a-t-il ajouté. Le groupuscule terroriste Jaish al-Adl, communément connu sous le nom de Jaish al-Zulm, basé au Pakistan, a revendiqué l'attentat. Majid Mirahmadi, vice-ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité et des affaires politiques, a déclaré, lui, que les terroristes avaient attaqué le poste de police depuis plusieurs directions et avaient ensuite tendu une embuscade aux renforts déployés sur place. Il a précisé que 2 des terroristes ont été tués et qu'un autre a été blessé et arrêté au cours d'affrontements qui ont duré plusieurs heures, tandis que les auteurs se sont échappés. 7 membres des forces de police ont été blessés au cours des échanges de tirs. La région est bouclée et la recherche des auteurs de l'attentat est en cours, a ajouté le responsable. Des hélicoptères des forces de police ont survolé la région pour traquer les terroristes. Le groupuscule terroriste Jaish al-Adl a mené plusieurs attentats à la bombe et enlèvement dans le sud-est de l'Iran, visant à la fois les civils et les forces de sécurité au cours des dernières années. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a mis en garde le chef des réfugiés des Nations Unies contre le projet du régime israélien de déplacer de force les Palestiniens dans la bande de Gaza, soumise à une guerre israélienne incessante. Le ministre iranien s'adressait à Filippo Grandi, le haut commissaire des Nations Unies, pour les réfugiés HCR jeudi à Genève, où il a assisté au Forum mondial sur les réfugiés 2023. Il a exprimé son inquiétude face aux attaques dangereuses du régime israélien qui cherche à provoquer l'exode des Palestiniens au nord de Gaza vers le sud de la bande côtière et de là vers les pays voisins. Le régime israélien mène une guerre génocidaire contre les Palestiniens de la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier, suite à l'opération Tempête d'Al-Aqsa du Hamas contre les territoires occupés. Jeudi, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que près de 18 800 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, avaient été tuées jusqu'à présent dans les frappes israéliennes. Les responsables palestiniens et d'autres responsables régionaux ont averti qu'à travers son agression brutale, le régime israélien poursuit une politique de transfert de la population de Gaza en Égypte. Le ministère palestinien de l'Éducation a révélé que depuis le début de l'attaque d'Israël contre la bande de Gaza, le 7 octobre dernier, 3714 écoliers ont été tués en martyrs et 5700 autres blessés dans l'enclave palestinienne et en Cisjordanie. Le ministère a également annoncé dans un communiqué qu'en Cisjordanie, 35 écoliers ont été tués, 271 autres blessés et 82 personnes arrêtées. Le communiqué précise qu'à Gaza, 209 enseignants et membres du personnel administratif ont été tués en martyrs et 619 autres ont été blessés. En Cisjordanie, 2 personnes ont été blessées et plus de 65 personnes ont été arrêtées. Le ministère de l'Éducation indique aussi que 298 écoles publiques et 65 écoles affiliées à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient en roi ont été attaquées et détruites à Gaza. Après 68 jours depuis le début des agressions israéliennes, les villes occupées comptent toujours leurs martyrs et leurs blessés. Et alors que les combats sur différents fronts au nord et au sud de la bande de Gaza s'intensifient depuis ces 3 derniers jours, les combattants des brigades Qassam détruisent en moyenne un véhicule blindé israélien par heure. Abu Obaida, le porte-parole de la branche armée du Hamas, a déclaré dans une déclaration sur Telegram que les combattants de Qassam avaient réussi au cours des dernières 72 heures à détruire complètement ou partiellement 72 véhicules militaires de l'armée israélienne. Il a ainsi confirmé que les combattants de Qassam avaient réussi à tuer 36 soldats israéliens et infliger des blessures à des dizaines d'autres soldats et à saisir l'équipement et les biens de certains d'entre eux. Des opérations de snipers ont également été menées contre des soldats israéliens, peut-on lire dans le communiqué qui ajoute, cite, les militants de Qassam ont pris pour cible les quartiers généraux du commandement du terrain israélien, ont bombardé des rassemblements militaires avec des obus de mortiers et des missiles à courte portée dans toutes les zones de combat et ont lancé un barrage de roquettes vers diverses cibles israéliennes. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. De maison aux terres palestiniennes, la colonisation sioniste au quotidien par Xavier Villard, titulaire d'un doctorat en études islamiques et chercheur basé en Espagne. Un aspect qui passe souvent inaperçu lors de l'analyse de la situation en Palestine est ce que l'on peut décrire comme l'occupation de la vie quotidienne. Cela fait référence à la manière dont le régime colonial sioniste et son projet colonial sont présents puisque dans les moindres détails et dans les espaces les plus intimes de la vie des Palestiniens. Une analyse politique de l'intimité, en particulier dans les foyers palestiniens, permettra d'illustrer la manière dont le colonialisme s'infiltre même dans les coins les plus privés, généralement considérés comme isolés ou pour le moins exposés à l'entité coloniale. L'approche intime de la politique permet également d'observer comment la présence quotidienne et routinière de l'occupation affecte la vie et les relations interpersonnelles des colonisés. Par exemple, grâce à cette perspective intime, il est possible d'analyser l'impact psychologique de la réception d'un avis de démolition de maison ou la façon dont la reconstruction d'une maison, chaque fois qu'elle est démolie, peut finalement affecter la santé mentale des personnes impliquées dans ce processus. Ce type d'analyse ne doit pas être interprété comme une rupture avec l'étude du colonialisme, mais plutôt comme un moyen de souligner à quel point le colonialisme est envahissant et pénètre les ménages. En d'autres termes, une perspective sur la micropolitique des espaces intimes complète l'analyse macropolitique du colonialisme. Les maisons palestiniennes sont régulièrement évacuées, démolies et perquisitionnées. Cette violation de l'espace intime n'est ni récente ni uniquement provoquée par la prétendue réaction aux événements du 7 octobre. Par exemple, en 2016, les données publiées par les médias israéliens eux-mêmes indiquaient une démolition hebdomadaire moyenne de 20 structures. Un autre exemple de cette destruction de maisons a été documenté par le journaliste et auteur palestinien Ramzi Baroud, qui a rapporté en 2017 comment le village bédouin palestinien d'Al-Araqib a été démoli plus de 116 fois. Outre les démolitions de maisons, l'occupation sioniste se manifeste d'autres manières dans l'espace quotidien, comme le harcèlement de l'État visant à forcer les habitants à abandonner leurs maisons, ou les ordres d'expulsion qui, dans le contexte colonial palestinien, pourraient être définis comme une légitimation de cet harcèlement. Il n'est pas rare que des familles palestiniennes soient expulsées de leurs maisons où elles vivent depuis des décennies. Dans la partie occupée de Jérusalem-Est ou Gotz occupée, il existe des zones où les mouvements de colons soutenus et protégés par le régime militaire et la structure juridique de l'entité coloniale attaquent et intimident les résidents palestiniens afin de les expulser de leur maison. Le géographe Sabrian Amrov souligne comment la violence et l'occupation de la vie quotidienne se manifestent dans la perception militaire appliquée au foyer palestinien. Dans une infographie publiée en 2014 par l'armée israélienne intitulée « When is a house a home ?», une maison palestinienne typique décrite d'un point de vue militarisé. La chambre à coucher a été identifiée à une salle d'opération, tandis que le salon était considéré comme un dépôt d'armes. Par cet exercice discursif, l'armée israélienne justifie ses attaques contre des infrastructures typiquement conçues comme des espaces civils, des lieux de refuge et de protection. Ce processus discursif relie les deux aspects de l'occupation coloniale sioniste. Le microcosme représenté par les foyers et l'intimité et le macrocosme représenté par le territoire palestinien dans son ensemble. Dans les deux domaines, l'objectif est de déposséder les Palestiniens de leur maison et de leurs terres.
Bonjour à tous. Ce sujet dans cette émission qui s'appelle le débat. Le débat du jour est donc le non américain face au Conseil de sécurité, seul pays à avoir voté non pour un cessez-le-feu à Gaza. On rappelle qu'il y a presque 20 000 personnes de mortes, des civils pour la plupart, des enfants et des femmes. C'est le sujet de notre débat d'aujourd'hui. Je vous propose tout d'abord donc pour ce format débat, un reportage qui a été produit à cet effet. Et par la suite, donc, nous ferons venir nos deux invités du jour. Tout de suite, le reportage.
L'Iran condamne le recours par les États-Unis à leur veto pour bloquer une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a condamné samedi l'usage par les États-Unis de leur droit de veto pour bloquer une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à parvenir à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Nasser Kanani a souligné que le gouvernement américain a prouvé une fois de plus qu'il est le principal acteur du massacre de civils et de citoyens palestiniens, en particulier des femmes et des enfants, et de la destruction des infrastructures vitales dans la bande de Gaza. Depuis le début de l'invasion barbare du régime infanticide sioniste contre Gaza, le régime américain a prouvé à plusieurs reprises son alliance et sa coopération avec le régime d'apartheid d'Israël en commettant des crimes de guerre et un génocide contre la nation palestinienne. Les actuels responsables des États-Unis, qui expriment de manière hypocrite leur inquiétude pour la vie des enfants et des civils dans la bande de Gaza, ont fourni la semaine dernière à Israël la 200e cargaison d'armes et d'aide militaire. Le diplomate a déclaré qu'il ne fit aucun doute que le gouvernement américain est impliqué dans le massacre d'environ 18 000 civils, dont environ 8 000 enfants opprimés, et que le régime américain et l'entité israélienne usurpatrice devront payer le prix des conséquences de l'extension de la guerre dans la région. L'héritage des politiques racistes et inhumaines poursuivies par les responsables américains ne sera que honte et déshonneur pour les générations futures, a-t-il conclu.
Nous revoilà donc sur le plateau. Tout de suite, nous allons voir venir donc nos invités. De manière virtuelle, nous avons M. Bernard Cornu, qui depuis le 7 octobre participe de manière très active à nos débats. Bonjour M. Cornu, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour à vous et bonjour à Débat et à mon collègue M. Corneille. Et à ce nouveau débat où je participe depuis plusieurs années déjà.
Bien entendu. Ce que je voulais dire, voilà, c'est que depuis le 7 octobre, on est chaque semaine face aux nouvelles, face au nombre de blessés, de morts. Et vous avez, depuis donc le 7 octobre, été présent pratiquement chaque semaine avec nous. Monsieur Corneille, vous l'aurez compris, notre deuxième invité. Bonjour, M. Jean-Maxime Corneille. Ravi de vous avoir avec nous. Également, vous avez été très présent pour la question palestinienne ces dernières semaines.
Bon, bonjour également. Bonjour Téhéran et bonjour à M. Cornu.
Alors, Monsieur Bernard Cornu, on va commencer par vous. Donc, ce nom américain, alors, c'est quand même, si cette histoire de Gaza, si cette histoire de la Palestine a servi à quelque chose, c'est qu'on est vraiment très loin de la réaction des Nations Unies ou de la réaction internationale diplomatique lors de la guerre en Irak, lors des différentes guerres avec des excuses données par les Américains pour rentrer en guerre. Là, aucun pays ne suit, c'est même le contraire. Et bien sûr, le droit de veto américain commence à peser lourdement sur la diplomatie internationale.
Tout à fait. On peut noter aussi que le Royaume-Uni s'est abstenu. Ils étaient complices en 2003 pour cette guerre programmée en Irak avec des mensonges. Et ils sont encore associés dans ce refus d'un cessez-le-feu immédiat, avec des arguments avancés par les États-Unis que un cessez-le-feu permettrait en fait aux forces du Hamas de se regrouper pour reprendre les combats et ne pas être éliminés. Voilà, c'est les seuls arguments. L'argument pour un cessez-le-feu, c'est-à-dire éviter encore quelques milliers de morts, évités par la faim, par la soif, par les maladies, par les infections, n'a pas été retenu et n'a pas permis aux États-Unis de voter ou de s'abstenir, donc laisser faire un cessez-le-feu.
Merci, M. Cornu. M. Jean-Maxime Corneille, comme on l'a vu donc cette semaine, encore une fois, le veto américain pèse lourdement. Alors pourquoi lourdement selon vous? Enfin, de quelle manière c'est lourd pour les diplomaties internationales qui ne sont pas d'accord avec ces décisions pro-occidentales, et comment ce veto pourrait être éventuellement remis en question?
Eh bien, le veto pèse lourd lui-même parce que, évidemment, les États-Unis sont encore sur la lancée de la situation des années 1990 lorsqu'ils étaient l'unique superpuissance. En ce sens, depuis cette époque-là, nous étions habitués à ce que quand les États-Unis disaient quelque chose, Il y avait surtout le poids de la diplomatie par l'armée américaine derrière qui faisait que lorsque les États-Unis disaient quelque chose, c'était crédible. Nous l'avions vu avec une apogée en 1991 et surtout 2003, les deux guerres du Golfe, les deux guerres zéniques livrées contre l'Irak, en fait des guerres de destruction de l'Irak, voulues en réalité par Israël. Et c'est bien le problème en réalité. C'est qu'une grande partie de la politique américaine est dictée par une certaine vision des intérêts juifs israéliens. Et même pas vraiment israélien, puisqu'il s'agit des intérêts d'une communauté, d'une partie de la communauté juive américaine minoritaire, extrêmement fanatique et fanatisée, depuis les États-Unis, depuis Washington et New York, souvent d'ailleurs d'anciens juifs russo-polonais, qui ont d'ailleurs été dénoncés bien souvent par des juifs russo-polonais, quelque part repentis, qui sont allés vent debout justement contre les excès fanatiques de cette partie de la communauté juive américaine qui s'appuie sur beaucoup d'argent, pour égarer les États-Unis et leur politique étrangère et pour pousser également Israël à se faire détester. Il y a également une autre raison, c'est l'importance des chrétiens évangéliques aux États-Unis, de la Bible Belt, qui sont réellement dans cette idée très perverse de pousser Israël à se faire détester parce qu'à la fin, lors de la destruction d'Israël, deux tiers des Juifs seront massacrés et un tiers des Juifs comprendra enfin et se convertira à la vraie foi du christianisme protestant évangélique qui de fait est une véritable torsion du christianisme. En réalité, chacun pense utiliser l'autre, c'est-à-dire que la communauté juive américaine fanatisée dans ce qu'elle a de fanatiser pense utiliser les chrétiens évangéliques, tandis que les chrétiens évangéliques pensent utiliser et pousser Israël pour leur vision eschatologique de la fin du monde, mais dans les deux cas, nous avons quelque chose de très malsain. Donc dans ce contexte-là, en effet, le veto états-unien pèse, parce que nous sommes habitués à ce que les États-Unis pèsent sur la scène internationale, mais nous voyons tout de même, spécialement depuis 2015, avec l'intervention russe en Syrie, au soutien de l'Iran et du Hezbollah, nous voyons vraiment comme la diplomatie américaine est en réalité en train d'être usée de toutes les façons possibles par une certaine vision des intérêts israéliens. Il y a eu des lanceurs d'alerte américains qui ont mis en évidence l'idée qu'en poussant ainsi les États-Unis à se faire détester, Israël allait en réalité précipiter la fin des États-Unis en tant que leur protecteur, en tant que leur parrain au Moyen-Orient. Et je pense que c'est ce à quoi nous assistons là, graduellement, et c'est vraiment une dynamique évidente depuis, je dirais, l'affaire de Benghazi en 2012. Et c'est la difficulté, donc, cette difficulté, en quelque part, ce sont les accouchements d'un potentiel nouvel ordre mondial imprévu, qui est celui des BRICS, face à un nouvel ordre mondial devenu trop inique, celui que Joe Biden avait annoncé qu'il avait appris à aimer. C'était en 91 que Joe Biden disait ça. Comment j'ai appris à aimer le nouvel ordre mondial? Nous savons très bien qu'il y a des réseaux subversifs qui détournent l'Occident. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré les problèmes que cela pèse, nous voyons que le monde révolutionne autour de ces États-Unis et d'Israël dans ce qu'ils peuvent avoir d'égaré aujourd'hui. Donc c'est tout à fait dual, c'est à la fois négatif pour le monde, mais en même temps, le monde tournant autour de cette réalité, c'est de fait positif pour le monde, de mon point de vue, je pense.
Merci Monsieur Cornet. Monsieur Bernard Cornu, on a vu donc depuis deux semaines en particulier sur les réseaux sociaux que le docteur professeur Bola a dit ici dans les studios de Presse TV qu'elle présentait ça comme un cinquième pouvoir, les réseaux sociaux notamment pour cette guerre et pour depuis le 7 octobre. On a vu donc les réseaux sociaux depuis deux semaines être extrêmement actives pour critiquer la résistance palestinienne, notamment celle présente à Gaza, disant qu'ils sont en train de perdre. Et nous avons vu le contraire, nous avons la résistance palestinienne diffuser des images, faire des déclarations, toujours avec des images directement sur le terrain, où on voit donc cette résistance palestinienne être extrêmement efficace, puisque ce sont à chaque fois des frappes assez, on ne va pas dire des frappes chirurgicales, mais on voit directement par la caméra que ça a bien été touché, que l'ennemi au viseur a été touché par comme le voulait leur plan. Alors, ce cinquième pouvoir qu'est les réseaux sociaux nous donne beaucoup de haine également sur les réseaux sociaux, parce que bien entendu, au vu de la situation, ça fait plus d'un mois, hein, plus d'un mois depuis le 7 octobre, où on voit les gens mourir, les enfants mourir, donc de plus en plus de haine s'installe sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette haine se retrouve, par exemple, en Europe? Est-ce que vous êtes vous-même, vous tous les deux, nos deux experts du jour, vous êtes tous les deux en Europe, en France, est-ce qu'on pourrait craindre, au vu que la situation de Gaza ne se modifie modifie pas, que ce veto américain est toujours présent, que les Européens suivent plus ou moins les Américains, même s'ils ne vont pas le faire confrontément, trop peur de la population. Mais est-ce qu'on pourrait craindre que les tensions augmentent en Europe, surtout qu'il y a les JO qui ne vont pas tarder?
Bon, d'une part, moi-même, j'évite d'utiliser largement les réseaux sociaux parce que il n'y a pas vraiment de loi, comme il y a des lois sur la presse pour le droit de réponse. Dès qu'il y a des choses fausses qui sont dites, on peut répondre quand c'est des journaux. Sur les réseaux sociaux, il y a tellement de nombre de communications diffusées très largement et avec beaucoup aussi de gens anonymes. Donc il est très difficile de répondre, donc d'exercer la justice, d'exercer le droit à la vérité, à la contradiction et au vrai débat. Donc j'évite de les... Mais effectivement, ces réseaux sociaux ont beaucoup d'influence. Il est vrai que l'État israélien les utilise massivement. Il paye des milliers de gens pour répondre, critiquer dès qu'il y a des avis trop jugés trop pro-palestiniens, avec soit des robots, soit des personnes qui guettent. Pour... Donc en fait, c'est très nocif. Mais c'est vrai que les gens de Palestine et les gens dans les pays arabes militants pour la cause juste palestinienne se sont organisés depuis, disons, une quinzaine d'années pour répondre aussi aux accusations, diffuser des messages de vérité ou répondre à des arguments faux, à des images, détecter les images fausses qui ont été nombreuses d'ailleurs dans ce conflit, l'affaire des bébés, l'affaire aussi certainement d'une grande partie dont sont accusés les attaquants du 7 octobre. Donc en fait, c'est maintenant un combat médiatique sur les réseaux sociaux qui est important. Alors, il est vrai, effectivement, comme c'est très nombreux et qu'il n'y a pas vraiment de droit de réponse, très organisé par les lois, il est difficile de démêler les choses et de s'appuyer sur l'argument. Donc, ça peut très vite dégénérer dans des conflits d'injures, de prospection. Mais les gens sérieux répondent. Et je vois, par exemple, comme le dirigeant de la France insoumise qui s'est fait beaucoup attaquer, même traité d'antisémite pour quelques propos qu'il a tenus, a pu répondre dans une revue périodique, Orient 21. Il a pu répondre la semaine dernière très précisément en 4 pages d'entretien pour détourner toutes les accusations qu'on lui a portées, pour les dénoncer et répondre précisément à tout ce qu'on lui a objecté, donc au niveau du vocabulaire, de certaines expressions. Et il a explicité sa position de façon très claire. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et toujours répondre très concrètement, très pratiquement, mais dans la presse écrite de préférence, pour éviter cette inflation des réseaux sociaux qui ne mène pas à grand-chose.
Merci, Monsieur Cornu. Monsieur Cornet, alors une question, bien entendu, quand on voit, vous avez vous-même indiqué que oui, ce veto américain fait pression sur la diplomatie internationale. Alors, bien entendu, l'autre question qui vient juste après, c'est le monde multipolaire, puisque l'unipolarité provoquée par la puissance américaine due à la Seconde Guerre mondiale, nous avons souvent débattu sur l'après-Seconde Guerre mondiale, même les premiers agissements de la Première Guerre mondiale qui a eu effet sur la Seconde Guerre mondiale. Ici, sur les plateaux de Presse TV, très souvent avec vous comme invité, on en a parlé. Mais voilà. Ici, alors qu'on parlait des BRICS, le fait que les BRICS ont ouvert leurs portes à d'autres pays, qu'ils ont indiqué qu'ils allaient ouvrir leurs portes à d'autres pays, là, on voit avec ce veto américain, dans le monde entier, face aux télévisions du monde entier, officielles, c'est-à-dire les télévisions nationales, diffuser ce veto, alors que tous les pays du monde réclament qu'une seule chose, c'est que cesse les tueries à Gaza, des tueries prouvées, des représentants donc de la Croix-Rouge ont été présents, et on ne parle pas de gens présents, c'est-à-dire des Palestiniens travaillant pour la Croix-Rouge, on parle de dirigeants de la Croix-Rouge s'étant déplacés là-bas, on parle d'organisations pareilles qui sont externes à la Palestine, qui sont venus eux-mêmes en tant que dirigeants pour voir ce qui était vrai ou faux, puisqu'on reprochait aux organismes d'être pro-palestiniens parce qu'ils étaient palestiniens. Donc la semaine dernière, on a vu plein de discours de ce genre-là à la télévision, aux télévisions officielles. Est-ce qu'on va, après cette histoire de Gaza, une fois qu'un cessez-le-feu, qu'on espère tous, bien entendu, soit prolongé et définitive, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une véritable cassure au niveau du monde et que cette unipolarité, il ne faut pas oublier qu'il y a les élections américaines qui arrivent, qu'on pense que Trump pourrait gagner vu que Biden perd les votes des jeunes à cause de la situation palestinienne ou grâce, je ne sais pas quel est l'adjectif le plus précis face à la situation, mais vous-même en tant qu'expert, qu'en pensez-vous, Monsieur Corneille ?
Il est clair que les luttes d'influence, encore une fois, au sein des États-Unis sont la clé. Et pour les avoir largement documentées, spécialement sur cette période 2011-2020, et même récemment, il existe vraiment des luttes d'influence énormes au sein des États-Unis qui, en réalité, avaient été dénoncées juste avant la victoire de Trump en 2016. J'avais moi-même traduit Steve Pechenik, donc agent juif américain du renseignement militaire américain, durement opposé, courageusement opposé aux manipulations d'une certaine partie de la communauté juive américaine qui égare les États-Unis. Il avait été lui-même, Steve Pechenik, négociateur aux accords de Camp David en 1978. Il avait été le responsable de la sortie de l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, donc juste avant la victoire de Trump en 2016, c'est moi qui l'avais traduit à l'époque, et en français j'entends. Et à l'époque, nous avions eu donc la révélation d'une méthode de contrôle de la politique spécialement états-unienne par le Mossad et par des affaires pédocriminelles. C'est une façon de manipuler la vie politique américaine et de rendre dociles les politiciens américains. Mais nous avons eu récemment, et c'est là où les minorités américaines, les minorités notamment afro-américaines et musulmanes nouvellement, qui ont été manipulées et importées à l'époque Obama notamment, dans pas mal d'endroits, notamment au Minnesota, nous avons un retour de baume, et c'est comme en France, nous avons un retour de baume quand ces minorités, naturellement, ont tendance à prendre parti en faveur des Palestiniens, pour des raisons qui sont simplement liées à l'humanisme basique, sans même aller chercher l'agitation propagandaire. Si, globalement, les Juifs américains, par leur puissance, notamment à Hollywood, ont modifié l'histoire, notamment avec de l'esclavage, avec un film comme Amistad, par exemple, il n'en reste pas moins que les Noirs peuvent prendre conscience du fait qu'Israël reproduit des logiques esclavagistes en Palestine et qu'à un moment, là nous avons eu récemment le député, il y a une convergence qui s'opère, le député Byron Donalds, un républicain qui a donné un aperçu de la commission de surveillance, de l'enquête de la commission de surveillance à la Chambre des représentants concernant les turpitude du président Biden, les énormes accusations, les énormes chefs d'accusation de corruption qui pèsent contre lui. Donc en effet, il y a un gros problème d'une vie politique aux États-Unis qui est complètement vérolée, on le sait depuis quelque temps, et dans la façon dont cette vie politique est viciée, globalement, il y a une énorme responsabilité de cette certaine partie de la communauté juive américaine la plus fanatique qui toujours pousse les États-Unis à soutenir Israël, mais d'une façon malsaine, y compris pour Israël. C'est très dangereux parce que ce que disent les gens, les initiés, y compris les juifs intelligents, c'est que cette partie de la communauté juive américaine qui pousse Israël à se faire détester, comme Netanyahou, il a une maison à Miami. Si les choses tournent au vinaigre en Israël, lui ira couler des jours heureux à Miami, tandis que les Sabras, les Juifs israéliens, subiront. Et c'est bien le problème, en fait. C'est-à-dire que c'est là où je dis que malheureusement, les Juifs sont globalement bien plus souvent des gens qui ont été trompés depuis longtemps par un clergé qui les égare et par des luttes d'influence au sein de leur clergé qui les poussent vers un certain fanatique qu'ils ne comprennent toujours que trop tard. C'est très dangereux. C'est pour ça qu'historiquement, il nous faut comprendre ces choses-là comme une nouvelle chance pour Israël de comprendre les lacunes de son histoire, mais de fait, malheureusement, ils tomberont sur le constat que le judaïsme est irréformable. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle le christianisme puis l'islam avaient été créés. Mais dans cette configuration-là, en effet, la corruption de la vie politique américaine est un facteur moteur des problèmes, et elle a pour conséquence l'accélération de l'émergence du monde des BRICS dans le sens inverse, justement, parce que les mensonges deviennent trop grossiers et parce que les violations aux droits humains deviennent trop grossiers.
Monsieur Corneille,
c'est en quelque sorte un humanisme qui leur revient, en fait, comme un retour de baume.
Mais Monsieur Corneille, quand on regarde ce qui a été annoncé il y a quelques jours concernant la possibilité que Trump gagne aux élections à cause, comme vous l'avez vous-même décrit à l'heure actuelle, la situation du parti de Biden qu'il représente, puisqu'il en est le chef, il en est le chef représentant, qu'il y ait une chance que Trump donc soit le nouveau président en 2024. Et il y a cette tendance à penser que Trump se retirerait de l'OTAN et Trump pourrait même retirer les États-Unis plutôt de l'ONU. Dans ce cas-là, l'unipolarité la multipolarité dont parle depuis longtemps la Chine ou même la Russie, que beaucoup de pays attendent, donc des pays en voie de développement qui ont souffert des sanctions, qui ont souffert finalement de l'impérialisme américain. Je parle notamment du Moyen-Orient, mais également de l'Amérique du Sud. Il y a beaucoup de pays qui finalement ont été les victimes de cette unipolarité. Vous-même, est-ce que vous pensez que ce serait du domaine du possible, même si on est là en train de faire des suppositions ?
Alors laissons la situation en Amérique du Sud de côté, parce que je pense qu'elle n'est pas vraiment comprise depuis l'Iran. Je pourrais vous en parler dans un autre contexte. En revanche, j'ai été le premier analyste français à prédire la victoire de Trump en avance, mais j'ai aussi été le premier à mettre en garde concernant le profil de Trump sur le fait que Trump, durant 4 ans, a eu l'occasion de faire beaucoup de choses. Il n'en a pas fait grand-chose en réalité. Trump a su juguler la guerre, mais je n'attends pas Trump comme le Messie. C'est-à-dire qu'il a déjà montré à quel point il était tenu et à quel point il était docile vis-à-vis des intérêts israéliens pour des raisons qui sont sans doute liées en fait à des casseroles qu'il doit avoir dans le contexte de la vie new-yorkaise qu'il a vécue. Quand vous faites des affaires dans l'immobilier à New York, vous êtes nécessairement tenu d'une façon ou d'une autre. Et c'est bien le problème en réalité de ce vérolage de la vie politique américaine. Je n'attends donc pas un changement massif de Trump et certainement pas l'abandon de l'OTAN, puisqu'il n'a pas du tout fait ces choix-là durant son mandat. En revanche, que Trump soit opposé à la guerre et à certaines manipulations, ça c'est vrai. Mais avant tout, je pense que le monde doit révolutionner sans penser aux États-Unis, tout simplement parce que les enjeux de pouvoir sont trop interconnectés au sein des États-Unis pour qu'ils changent du jour au lendemain. Cette corruption des États-Unis, elle a au moins 100 ans. Elle a été documentée notamment par Curtis Dahl au sujet de la façon dont Roosevelt avait été manipulé. Ça serait encore un autre sujet derrière. Mais donc, il ne faut pas tout attendre de Trump. En revanche, ce qui est important, ce sont les rapports de force évolutifs aux États-Unis qui font que Trump ou pas Trump, les choses vont tout de même dans le bon sens. Et à un moment ou à un autre, il faut soutenir les patriotes américains contre ce qu'il se passe en ce moment aux États-Unis, mais c'est une longue histoire.
Merci, Monsieur Corneille. Monsieur Corneille, je vous ai vu hocher de la tête là au dernier propos tenu par Corneille. Je vous propose donc de conclure notre débat d'aujourd'hui en partageant votre point de vue sur ce que va dire Monsieur Jean-Maxime Corneille.
C'est vrai que le président Roosevelt avait, en partant, dans son dernier discours, avait reconnu que le complexe militaro-industriel était très puissant et très influent. Et je voudrais rajouter à cette analyse assez large, qu'il y a en fait aussi aux États-Unis une inculture sur l'histoire, sur la connaissance du monde et qui permet ces manipulations. Je pourrais rajouter moi-même, étant complètement laïque, agnostique, que beaucoup de religions sont fondées sur des légendes et non pas sur l'histoire. Des légendes qui ont un certain lien avec certaines histoires, mais ce sont surtout des légendes qui sont répétées par l'enseignement et qui fait que les gens sont beaucoup moins réceptifs à des analyses rationnelles, historiques, précises sur les rapports de force, sur les choses. Donc c'est cette inculture générale aux États-Unis, bien sûr qui est complétée par une connaissance de beaucoup de scientifiques, de très grandes universités. Mais les gens qui votent sont l'ensemble de la population et il y a très peu de connaissances, même parmi souvent les gouvernants quand ils arrivent au pouvoir, des situations du monde, de la Palestine, de la position de l'Iran, de la Chine, de la Corée, etc. Cette méconnaissance facilite les manipulations et je crois que l'enseignement de l'histoire est très important. Il est plus important, je pense, dans l'enseignement général en Europe et ce qui permet d'avoir peut-être des positions plus rationnelles. Pour finir, Merci. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, il y a une réunion européenne des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles. Et j'espère que ce contexte du veto américain facilitera peut-être une décision de reconnaissance de l'État de Palestine telle qu'elle est proposée et demandée déjà par l'Espagne qui assure ce trimestre-là qui finit la présidence de l'Union européenne.
Merci, Monsieur Cornu. Merci pour ces mots de conclusion. Merci, Monsieur Corneille, pour votre expertise aujourd'hui. Elle a été extrêmement riche. On rappelle que nous avons lié donc le veto américain au fait et à la précipitation éventuellement d'un monde multipolaire, notamment après cette crise qu'on espère tous finir à Gaza. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet du débat. Au revoir et à bientôt.
Mesdames, messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur le soutien apporté par le Yémen à la lutte de la Palestine contre l'occupation israélienne. Les Yéménites ont déclaré leur soutien ouvert à la lutte de la Palestine contre l'occupation israélienne depuis que le régime sioniste a lancé une guerre dévastatrice contre Gaza le 7 octobre, après que les mouvements de résistance palestinienne ont mené une opération surprise baptisée « Tempête d'Al-Aqsa » contre l'entité occupante. Mardi, les forces armées yéménites ont revendiqué la responsabilité d'une frappe de missile contre un pétrolier battant pavillon norvégien dans la mer Rouge alors qu'il se dirigeait vers un port israélien. Le 4 décembre, l'armée yéménite a également pris pour cible deux navires israéliens en mer Rouge alors qu'il tentait de traverser le détroit de Bab el-Mandeb. Suite aux opérations réussies et uniques de l'armée du gouvernement de Sanaa contre les navires appartenant au régime israélien, le vice-amiral à la retraite et ancien commandant de la marine israélienne, Eliezer Marom, a admis qu'Israël était encerclé par les forces armées yéménites. L'armée yéménite a ces dernières semaines pris pour cible plusieurs navires du régime sioniste en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb en signe de son soutien à la résistance du peuple palestinien dans la bande de Gaza. Cet ancien commandant de la marine de l'armée sioniste a reconnu que le régime d'Israël était actuellement sous blocus naval des forces armées yéménites. Marom a en effet déclaré dans une interview accordée à la radio de l'armée israélienne qu'Israël est actuellement soumis à un blocus naval et le trafic maritime en mer Rouge est actuellement bloqué pour ce régime, ce qui affectera à coup sûr les prix. Ansar Allah conditionne le retour du calme en mer Rouge à un cessez-le-feu définitif à Gaza. Un membre du bureau politique du mouvement Ansar Allah du Yémen, Abdel Malek al-Ajri, a déclaré mercredi soir 13 décembre que la seule façon de rétablir la paix en mer Rouge, c'était de rétablir la paix à Gaza. Il n'y a aucun moyen susceptible de réduire les tensions sans un cessez-le-feu permanent à Gaza. Si toutes les flottes navales du monde se précipitent vers la mer Rouge, cela ne pourra garantir la sécurité du régime d'Israël, de ses navires ou encore des cargos qui se dirigent vers la Palestine occupée, selon le responsable d'Ansar Allah. La seule manière de ramener la paix en mer Rouge, c'est de rétablir la paix à Gaza, a-t-il expliqué. Auparavant, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, avait prévenu que Sanaa ne permettrait à aucun cargo appartenant à la Palestine occupée de transiter par les eaux territoriales yéménites, à moins que les navires transportent des médicaments et de la nourriture à destination des Gazaouis. Le service de sécurité maritime de l'Angleterre a annoncé le mercredi 13 décembre que des vedettes rapides avec des hommes armés s'étaient approchés de deux navires qui traversaient les eaux côtières du Yémen et qu'ils avaient ouvert le feu sur eux. L'armée yéménite a ces dernières semaines pris pour cible plusieurs navires du régime sioniste en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb en signe de son soutien à la résistance du peuple palestinien dans la bande de Gaza. La marine yéménite avait précédemment averti qu'elle continuerait ses opérations militaires contre les navires et les intérêts du régime sioniste tant que celui-ci continuera ses agressions contre Gaza et ses exactions contre la nation palestinienne. Rappelons que le mercredi 13 décembre, deux incidents maritimes ont été signalés en mer Rouge, au large du Yémen, à proximité du détroit de Bab el-Mandeb. Selon la Société britannique des opérations commerciales maritimes, UKMTO, un pétrolier, a été visé par des tirs d'hommes armés à bord d'une vedette rapide et par des roquettes. Un deuxième navire a également été approché par des hommes armés à bord d'un bateau hors bord dans la même zone, mais n'a pas été attaqué, ont indiqué la Société britannique de sécurité maritime Ambri et d'autres sources. L'UKMTO a conseillé aux navires dans un communiqué de transiter avec prudence et de signaler toute activité suspecte, a rapporté Reuters. Par ailleurs, la Société britannique de sécurité maritime Amberi, spécialisée dans la gestion mondiale des risques maritimes, a souligné que les deux incidents ont eu lieu au large du port yéménite d'Al-Hudaïda. Un pétrolier transportant des matières chimiques qui battait pavillon des îles Marshall avait signalé un échange de tirs avec une vedette rapide à 55 000 marins au large d'Al-Hudaïda. Selon l'équipage du pétrolier, des hommes armés ont tiré à son approche et le navire a été également visé par trois roquettes. La société britannique Ambrey a rapporté que le pétrolier avait été salué par une entité prétendant être la marine yéménite, demandant au navire de modifier son cap, mais qu'un navire de guerre à proximité avait conseillé au pétrolier de maintenir son cap. Quelques minutes plus tard, un autre bateau hors bord s'est approché d'un vraquier battant pavillon maltais, mais ne l'a pas attaqué. L'agence Associated Press a cité une source officielle américaine selon laquelle une frégate de la marine américaine aurait abattu un drone appartenant aux forces armées yéménites à proximité du détroit de Bab el-Mandeb. Un responsable américain qui a requis l'anonymat a prétendu aussi que deux missiles ont été tirés mercredi 13 décembre depuis le littoral yéménite vers un navire dans la mer Rouge, mais n'ont pas touché leur cible. Réagissant à l'annonce des États-Unis concernant les efforts en cours pour former une coalition maritime contre le Yémen, un membre important du bureau politique du mouvement Ansar Allah yéménite a averti que le pays disposait de moyens efficaces et douloureux pour contrer une telle coalition. L'Iran aussi a qualifié de stupide le projet américain visant à établir une force opérationnelle maritime dans la mer Rouge dans le soi-disant but de protéger les navires à destination d'Israël. Dans un sévère avertissement adressé aux États-Unis, le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Mohammad Reza Shtiani, a déclaré dans des propos publiés ce jeudi 14 décembre « Il n'y a pas de place pour que les étrangers soient présents et qu'ils manœuvrent dans la région ». Il s'est également dit convaincu que les États-Unis ne commettraient jamais un acte aussi stupide car cela causerait de nombreux problèmes. Les Américains n'offraient certainement pas une telle chose. S'ils ont l'intention de commettre un acte aussi stupide, ils seront confrontés à de nombreux problèmes, a prévenu le haut gardé iranien. Cet avertissement a été émis après que le Pentagone a déclaré la semaine dernière qu'il était prêt à contribuer à la mise en place d'une force opérationnelle maritime sous prétexte de protéger les navires commerciaux dans la mer Rouge à la suite d'une série d'attaques yéménites contre des navires appartenant à des sionistes et se dirigeant vers les territoires occupés palestiniens. Les Yéménites ont exprimé à plusieurs reprises leur soutien ouvert à la lutte de la Palestine contre les forces de l'armée israélienne depuis que le régime sioniste a lancé une guerre dévastatrice contre Gaza le 7 octobre.
Thank you.